Chapitre 5. Les grands événements. La cathédrale, depuis sa construction, a toujours été là pour célébrer les moments heureux ou malheureux de la France. Elle permet de mieux connaître l'histoire de France, car beaucoup d'événements s'y sont passés. L'arrivée de la Sainte Couronne au XIIIe siècle. En 1239, on y dépose la Sainte Couronne d'épines que Louis IX a achetée. Louis IX, dit Saint-Louis, 1214-1270. Louis IX est un roi très chrétien. Il va à la messe chaque jour. Il prend soin de pauvres et des malades. Il crée les premiers hôpitaux pour les soigner. C'est un roi puissant et sage. On dit qu'il jugeait les gens sous un arbre, un chêne. À son époque, la ville de Jérusalem et le tombeau du Christ appartiennent aux Turcs musulmans. Louis IX part en croisade, guerre contre des gens qui n'ont pas la même foi, pour libérer Jérusalem. La première croisade échoue. Il est fait prisonnier et doit donner de l'argent pour sa libération. À 56 ans, il repart en croisade, mais il tombe malade près de Tunis, en Afrique, et meurt en 1270. Le pape le déclare saint 27 ans après sa mort, en 1297. Le 19 août 1239, Louis IX enlève son manteau de roi, met une tunique toute simple et pieds nus, il porte la Sainte Couronne d'épines jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quand son cercueil revient en France, en 1271, on l'expose à la cathédrale. Les fidèles prient pour ce roi qui est déjà un saint pour eux. Jacques de Molay, le chef des Templiers, au XIVe siècle. Les Templiers. Les Templiers sont des moines soldats. Ils ont participé aux croisades. Ils sont très riches, ce qui ne plaît pas au roi Philippe le Bel, 1268-1314, le petit-fils de Saint-Louis. En plus, le royaume de France, lui, est pauvre. En 1307, le roi les arrête. On les torture pour leur faire avouer des fautes qu'ils n'ont pas faites. On prend leur argent et leurs biens. Beaucoup de Templiers sont brûlés. Autrefois, sur le parvis de Notre-Dame, se trouvait le pilori. On y montait pour entendre une condamnation ou se repentir. C'est là qu'en 1314, Jacques de Molay, le chef des Templiers arrêté en 1307, entend sa condamnation. La prison à vie. Mais il revient sur ses aveux donnés en échange d'une promesse de liberté. Il dit qu'il a avoué sous la torture et qu'il n'a rien fait. On le condamne à mort et on le brûle sur un îlot proche de la cathédrale en 1314. Jeanne d'Arc au XVe siècle. Jeanne d'Arc, 1412-1431. Pendant la guerre de Cent Ans, une petite bergère entend des voix, Saint-Michel, Sainte-Catherine, qui lui demandent de libérer la France. À cette époque, les Anglais occupent une grande partie du pays. Peu après, elle combat les Anglais à la tête des armées. Elle délivre la ville d'Orléans et d'autres villes. Grâce à elle, le roi Charles VII est sacré à Reims en 1429. Les Anglais réussissent à la capturer et l'accusent d'être une sorcière. Il y a un procès. On la condamne et on la brûle à Rouen en 1431. En 1437, on chasse de Paris les Anglais qui l'occupaient. En novembre, le roi Charles VII entre par la porte Saint-Denis dans Paris libéré. La foule l'acclame et crie « Vive le roi !» Le roi se rend à la cathédrale pour remercier Dieu. Les cloches sonnent et on chante un Te Deum, un hymne latin chrétien qu'on utilise pour les fêtes et les victoires. En 1455, le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc pour annuler sa condamnation de 1431 commence. Le début du procès a lieu à Notre-Dame de Paris en novembre 1455. La suite aura lieu à Rouen. L'année suivante, Jeanne d'Arc est réhabilitée. En 1920, le pape la déclare sainte. On peut admirer une statue de Jeanne d'Arc dans la cathédrale. Un mariage royal au XVIe siècle. En 1572, Henri de Navarre, un protestant, épouse Marguerite, dite la reine Margot, la sœur du roi de France catholique Charles IX. Les chefs protestants se rendent à Paris pour assister au mariage dans la cathédrale. Mais la mère de Charles IX, Catherine de Médicis, veut se débarrasser des protestants. Le 24 août, le massacre des protestants commence. Il y a plusieurs milliers de morts. Protestants et catholiques. Parmi les chrétiens, on trouve les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Ils croient tous en Jésus, Fils de Dieu, mais ils ne sont pas d'accord sur certaines choses. Les protestants et les catholiques se sont longtemps fait la guerre. En 1589, le roi catholique français Henri III, frère de Charles IX, meurt sans enfant. Son héritier est Henri de Navarre, le chef des protestants. Impossible. Un protestant ne peut pas être roi de France. La guerre reprend. Henri de Navarre, pour ramener la paix en France, décide de devenir catholique. Il renonce en 1593 au protestantisme pour réconcilier les Français après les guerres de religion et est sacré roi en 1594 sous le nom d'Henri IV. Selon une tradition, pour expliquer son changement de religion, il a dit « Paris vaut bien une messe ». Napoléon Bonaparte au XIXe siècle. Le 2 décembre 1804, en présence du pape Pie VII, la cathédrale accueille le sacre de Napoléon Ier et de sa femme, Joséphine de Beauharnais. 2 ans avant, on a rétabli le culte catholique et Notre-Dame a rouvert après la Révolution française. Notre-Dame est très abîmée. Alors, pour la cérémonie du sacre, on cache les dégradations sous des tissus. Entre la messe et le couronnement, la cérémonie dure 5 heures. À un moment, Napoléon prend la couronne posée sur l'autel et la pose lui-même sur sa tête. Après, il prend la couronne de Joséphine, fait le geste de la poser sur sa tête, puis couronne l'impératrice qui est à genoux devant lui. Quand Napoléon est sur le trône, le pape le bénit et prononce la formule habituelle « Que Dieu vous affermisse sur ce trône ». Puis il embrasse l'empereur sur la joue, se tourne vers les gens présents et dit en latin « Vivat imperator in aeternum ». À 3 heures de l'après-midi, on entend des cris de « Vive l'empereur » et de « Vive l'impératrice » dans la cathédrale. Un tableau réalisé après le sacre représente le moment où Napoléon couronne Joséphine, le sacre de Napoléon du peintre Louis David. Les guerres mondiales au XXe siècle. La Première Guerre mondiale. On a chanté le Te Deum dans la cathédrale à la fin de la Première Guerre mondiale en novembre 1918. La Seconde Guerre mondiale. Le 25 août 1944, les cloches de Notre-Dame sonnent la libération de Paris, occupée par les Allemands depuis juin 1940. Le lendemain, le 26 août, le général de Gaulle, le chef de la résistance qui a refusé l'armistice, la fin des combats, signé par le général Pétain en juin 1940, le général Leclerc et d'autres personnes se rendent à Notre-Dame. Ils assistent à une cérémonie dans la cathédrale. On entend des tirs à l'extérieur. On ne saura jamais qui c'était. Dans la cathédrale, ils écoutent chanter un Magnificat. Le Magnificat vient de l'Évangile de Luc, qui raconte la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, âgée et enceinte. Pendant cette visite, Marie fait une prière à la gloire de Dieu, le Magnificat. Les enterrements et les hommages de personnalités dans la cathédrale. Louis Pasteur, en 1895. Louis Pasteur, 1822-1895. Louis Pasteur est un scientifique français très célèbre. il est connu dans le monde entier. Il a inventé le vaccin contre la rage et bien d'autres choses, la pasteurisation, les mesures d'hygiène. Le 5 octobre 1895, les gens suivent son cercueil dans les rues de Paris. Puis, son cercueil entre dans la cathédrale. Les présidents de la République française. En 1970, le général de Gaulle, 1890-1970, qui a été le premier président de la Ve République, meurt. On lui rend hommage dans la cathédrale. 80 chefs d'État du monde entier sont présents. En 1974, on célèbre les obsèques du président de la République Georges Pompidou, 1911-1974. En 1996, on rend hommage au premier président socialiste de la Ve République, François Mitterrand, 1916-1996. Les visites des papes. Jean-Paul II. Le 30 mai 1980, Jean-Paul II, en visite en France, récite une prière à la Vierge au pied de la statue de Notre-Dame de Paris. Puis il célèbre une messe dans la cathédrale. Dans son homélie, il parle de la cathédrale. C'est un lieu historique, un lieu sacré. Ici, nous rencontrons le génie de la France, le génie qui s'est exprimé dans l'architecture de ce temple il y a 8 siècles et qui est toujours là pour témoigner de l'homme. Le 22 août 1997, pendant les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, le pape Jean-Paul II béatifie Frédéric Ozanam, un laïc du 19e siècle. 400 évêques sont présents. Frédéric Ozanam, 1818-1853. Au 19e siècle, c'est la révolution industrielle. Le chemin de fer arrive, l'industrie se développe. Mais les ouvriers sont très pauvres et leur vie est difficile. Aucune loi ne les protège dans leur travail. S'ils font la grève, ils ne sont pas payés. Émile Zola a raconté cela dans son roman Germinal. Certains catholiques français décident de lutter contre cette pauvreté. Ils votent des lois qui améliorent les conditions de travail des ouvriers. Parmi eux, Frédéric Ozanam, un jeune professeur, marié et père de famille. Depuis 2006, le parvis de la cathédrale s'appelle aussi Place Jean-Paul II. On peut y voir une statue du pape. Benoît XVI. Le pape Benoît XVI est venu à la cathédrale en 2008. Il a adressé un message aux jeunes depuis le parvis et célébré une messe à la cathédrale. On y a chanté le Te Deum. Les hommages aux victimes des attentats du XXIe siècle. Le 13 novembre 2015, des attentats terroristes ont lieu à Paris. Le surlendemain, un dimanche, plus d'un millier de personnes vont à Notre-Dame pour assister à une cérémonie religieuse en hommage aux victimes. Environ 130 morts et 350 blessés. Beaucoup de gens qui n'ont pas pu entrer suivent la messe sur leur téléphone portable.